Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello les légendes, bienvenue pour ce 97e épisode avec un monstre de la customisation de raquettes, Dieter Caillet. On est allé à sa rencontre grâce à l'agence Edge qui soutient de jeunes joueurs et joueuses à atteindre les sommets du tennis mondial en leur apportant entre autres un service de customisation de raquettes sur mesure. J'ai donc suivi la joueuse française Carole Monnet, actuelle 200e mondiale, pour peaufiner ses cadres et lui permettre de gagner en longueur de balle. Sachez qu'il est possible de faire appel au service de Dieter pour vos propres raquettes, et pour entrer en contact avec cet expert, il te suffit de récupérer le guide gratuit de la raquette parfaite dans le premier lien en description de la vidéo, et nous te communiquerons en temps voulu les infos nécessaires pour customiser tes raquettes. Sache aussi qu'on a sorti une masterclass d'une heure avec Dieter pour que tu sois capable de choisir le bon modèle de raquette avec le poids, l'équilibre et la vitesse d'inertie qui correspond à ton âge, ton gabarit et ton niveau de jeu. C'est accessible dans le second lien en description et c'est à mon sens le premier pas indispensable avant une éventuelle customisation. Sans plus attendre, place à notre 97e épisode avec Dieter Caillet. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Hello à tous, je suis avec une légende de la customisation des raquettes, Dieter. Quel est ton nom de famille ?
Calle. C'est A-double-L. En Espagne, ils ne comprennent pas ça. Mais...
Ah ouais. Caillet. Donc tu es belge, comme on peut l'entendre.
Oui, ouais.
Quand est-ce que tu as commencé la customisation de raquettes ?
Bon, la custo, ouais, quand même assez tôt, parce que moi j'ai une bonne excuse. J'ai quand même pas mal joué quand j'étais jeune. Moi, quand j'ai perdu, j'ai dit, c'est ma raquette. Alors même quand j'étais jeune, j'ai commencé à coller du plomb et tout ça, chaque fois quand je perdais. On va dire ça, c'est la base. Mais la vraie base, quand je suis commencé à travailler pour Technifi, comme représentant, on a visité les usines et j'ai vu, ça peut être mieux, ça peut être mieux. Cordé pour le Coupe Davis et ça m'a mis dans la costaud. Ouais.
Tu penses que tu as fait combien de raquettes de joueurs professionnels jusqu'à maintenant ?
Bah, je ne sais pas. On a comme... Imagine, au début, tu ne fais pas tellement beaucoup. Mais
on par an, dire... là, tu en fais quoi là ?
Ça dépend. On va dire entre 1200 et 1400, je crois.
Par an ?
Ouais, par an. Mais c'est que ça, hein, je fais que ça.
Depuis combien de temps ?
On va dire depuis les derniers 6-7 ans. Ouais, le... et on va dire...
Ouais. Au moins 10 000 raquettes. Quoi.
Ouais, peut-être plus dans ma vie, ouais, ouais, c'est sûr. Avant, je cordais un petit peu pour les grands chelems, pour... mais maintenant, je ne cours plus juste Coupe Davis, Billie Jean Cup. Maintenant, c'est tout, mais c'est que customisé. Ouais.
Et c'est quoi en fait ? C'est ta passion d'aller déconstruire une raquette, décortiquer, rajouter, enlever ?
Bah ouais, c'est... Ouais, c'est... Le problème, j'avais deux jobs, représentant pour Technifi, customisation, et c'est devenu tellement gros la custo, que c'est mon cœur, c'est ma passion et j'adore aller sur le terrain avec les joueurs pour analyser leur type de jeu et voilà. Ouais, ouais.
Quels sont les joueurs les plus connus que tu as customisés ?
Pas connus maintenant, je travaille pas mal pour les Français. Hein. J'ai Gaël Monfils, j'ai Lindre Knerch, j'ai Constant Lestienne qui joue bien maintenant. Et avec les femmes, j'ai Onjaber, j'ai Kasatkina, j'ai Zviatek, ouais, pas mal. J'ai une 40-45 dans le top 200, on va dire, du joueur.
Zviatek est quand même numéro 1 mondial.
Ouais.
Comment tu as fait pour connecter avec des personnes, des gens aussi forts ?
Bah, parfois, ils me connectent, ils me demandent eux-mêmes, parce ouais. que je colle toujours un petit peu mon nom dans les raquettes. Et parfois, c'est les marques qui t'appellent, tu vois. Les marques qui par exemple, Zviatek, c'était Technifibre, Prince, on va dire, à l'époque, ils n'avaient plus de raquettes et tout. Et voilà, elle était presque obligée de changer et Technifi m'a demandé pour venir et voilà, ça c'est, elle est toujours restée depuis ce moment-là.
Est-ce que tu arrives à quantifier le pourcentage d'amélioration dans le jeu d'un joueur ou d'une joueuse grâce à ta customisation ?
C'est une bonne question. Parfois, je change rien. J'ai eu des cas où on est deux jours à l'autre côté du monde et on change rien. Et parfois, c'est comment ça déception, ouais, c'est, ouais. Ils disent, allez, il est venu, il a rien changé, ça arrive. Et parfois, ouais, tu peux arriver à changer complètement la raquette. Et quand tu travailles avec des caméras comme Hawkeye ou Trackman, et tu vois que c'est mieux, ouais, ça arrive, ça dépend, cas par cas.
Comment est-ce qu'on juge que c'est mieux ? C'est quoi les critères ?
Les critères, c'est on parle beaucoup avec le coach. Et si demain un coach il veut plus de rotation dans les balles, nous on sait que un centre sur un ring c'est peut-être mieux. Parfois il joue plus petit, on va grandir. Ouais, on met un petit peu la balance différemment, qu'on peut changer la direction de la raquette plus vite. C'est cas par cas. Et parfois vraiment on lit les différences avec Hawkeye ou Trackman. Et parfois non, ça dépend.
Ouais. Ok. Attends, je vais le tourner parce que je crois que c'est plus simple. Je crois que là, lors du dernier US Open, tu avais deux représentants en finale, non?
Oui.
De clients, je sais pas comment tu les
appelles. Oui, clients, on s'appelle clients.
C'était qui?
Ah bah, on avait Swiatek et Ongeabeur, ouais, ces deux, ouais.
Et ça te fait quoi de regarder la télé du plus grand tournoi du moment en disant, bah, c'est marrant,
je suis fier, j'ai commencé cette boulot tout moi-même. J'ai fait connaissance avec un ingénieur, le monsieur est un petit peu plus âgé maintenant, mais il s'appelle Walter Van den Brand, qui m'a aidé beaucoup au niveau de scientifique, le côté scientifique. Et voilà, et là je peux dire aussi que Technifibre, ils m'ont pris dans toutes les usines. Ouais, j'ai appris beaucoup et maintenant je suis fier parce que tu peux bien customiser, mais aussi mettre ton nom dans le marché, tu vois, que tu fais connaissance avec les joueurs, c'est important aussi. J'ai construit quelque chose, ouais. Mon hobby est devenu ma profession, je suis fier. Ouais.
Et tu as contact direct avec les joueurs et les joueuses ou c'est les agents, les entraîneurs?
Bah, ça, c'est vraiment, je trouve, une bonne question. Parfois, je fais que du contact avec les joueurs.
D'accord.
Même s'ils ont avec une agence, et parfois, avec certains joueurs, c'est que l'agence qui me contacte.
D'accord.
Mais on va dire 80%, je suis en contact avec les joueurs, moi-même aussi. Ouais, je trouve c'est important. Ouais.
Et tu le vois jouer ouais. Comme ce qu'on a fait ce matin avec Carole Monnet.
Ouais, on voyage où les joueurs viennent chez moi, où on va chez les joueurs. Et tu dois aussi avoir de la chance parce que tu peux changer quelque chose. Et imagine les trois matchs après, ils ont dur mentalement, c'est pas facile. Parfois, ouais, c'est le côté scientifique, c'est pas tout le temps le côté mental. Mais je trouve, allez, tu dois travailler les deux.
Les 3-4 joueurs où humainement tu as le plus apprécié travailler avec, c'est lesquels? Ou joueuses?
Bah, humainement, c'est dur parce que c'est vrai que les joueurs top mondial, ils ont tous un côté, et c'est pas négatif, on va dire, égoïsme. C'est normal. Ils font leur but, ils sont dans leur bulle. Ça, tu dois accepter. Hein. Un joueur, parfois, qui te rappelle pas, c'est normal parce que parfois, ils sont comme ça. Mais on va dire apprécier 11 par exemple Jabeur, quand je fais des raquettes, c'est toujours des messages, merci, 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 incroyable. Ouais. Et ouais, ça dépend, tu as des joueurs avec le distance est plus gros et tu as des joueurs où ils t'apprécient, ça dépend.
Tu as commencé quand avec 11?
11, ça fait longtemps. 11, ça fait quand même une dizaine d'années, je crois.
Ah ouais, quand même. Ah, ok, donc elle n'est pas venue de mondial après tes services, quoi.
Non, elle est... Ouais. Parfois, elle reste longtemps, ouais, ça dépend, ouais.
Et les mecs, les gars les plus connus que t'es fait?
Bah, les plus connus, à l'époque, j'ai fait les raquettes de Vernasco, par exemple, par côté Technifibre. Je fais mon fils, Pouille, qui est encore... Millman, on fait Radu Albot, on fait quand même Chardy.
Gasquet?
Non, Gasquet, il...
Qui fait sa butée sur le...
Ça, c'est bizarre. On va dire, la customisation, c'est fait par Head, mais son boule manche, j'ai demandé à lui, c'est un mec qu'il connaît, un petit peu, qui fait son boule pour lui dans le sud de la France ou quelque chose.
Ouais. D'accord.
Ouais.
Et est-ce que tu recommandes à un joueur de club ce genre de service ou pas forcément?
Ouais, parce que moi, mes prix, je vais être honnête, c'est entre 45 et 100 euros par raquette que je demande. Ça dépend ce que je dois faire. Mais je veux un prix démocratique pour tout le monde. Pour les joueurs qui n'ont pas de l'argent, qui sont 800 ATP, et pour des amateurs.
Parce que, tu fais aussi pour les amateurs?
Ouais, on va dire, on a 10% de mon clientèle. On va dire 200 raquettes par an avec des joueurs top en Belgique ou un petit peu plus bas. Ouais, ça arrive.
Ah oui, c'est seulement 10%.
Ouais, quand même. 15%.
Ouais. D'accord.
On a des jeunes où on coupe les raquettes adultes un petit peu plus court parce que c'est trop long. Tu vois, la dernière raquette junior, c'est 26 pouces, inch. Ouais. Et un adulte, c'est parfois un petit peu trop et on coupe parfois. Ouais, je fais pour tout le monde.
Alors attends, je crois qu'il y a ton chien là qui.
Ouais,
il y a mon chien. Comment on fait pour déverrouiller?
Attends.
Top. Et, ok, donc tu recommandes aux joueurs de club de le faire aussi?
Oui, non, ça dépend. Hein. Ouais.
Ça dépend du projet, quoi.
Ouais, ça dépend du projet. Moi, je trouve, par exemple, je travaille beaucoup pour la Fédé Belge, où on va regarder chaque année tous les talents.
Ouais.
Et je trouve à 12 ans, quand ils ont 4 raquettes, et ils sont presque identiques, je ne vais pas proposer de custos parce que je trouve à 12 ans, ça ne sert à rien. Ouais. Mais quand l'argent commence à compter et tu peux perdre un match, on va dire 15 000 $, ouais, parce que tu as une raquette complètement off de l'usine parce que les usines, ils ont des marges, ouais, là, je trouve que tu dois customiser. Ouais.
Il y a combien d'attentes quand on te confie une raquette?
Pardon?
Combien de temps d'attente?
Ça dépend.
Parce que là, je crois que tu as 80 raquettes.
Ouais, j'ai beaucoup. On va dire, sur un an, je peux faire mon boulot, mais ça ne vient pas sur un an. Parce que maintenant, tu as 2-3 marques qui changent de couleur. Ouais. Et ça, tout vient en une fois.
Là, s'il y a un gars de Tennis Légende qui te demande 4 raquettes, combien de temps il doit attendre?
Et Tennis Légende, ce soir, ils sont prêts.
Sympa.
Ça dépend. Mais normalement, j'essaye de faire quand même les raquettes. J'ai une priorité. Ce n'est pas first in, first out. Moi, j'ai une priorité. Les gens qui ont des raquettes, et je suis full, et qui ont encore des raquettes, ils doivent attendre un petit peu plus qu'un joueur qui est en train de tester. Parce qu'un joueur qui teste, il a besoin de tests très vite et il doit encore faire les nouvelles. Ouais. Alors, ce n'est pas first in, first out, c'est des joueurs qui ne vont pas changer des spécifications, qui vont juste changer la raquette, des nouvelles, ils peuvent attendre peut-être 2 semaines.
D'accord. Ouais. Ouais. On peut te contacter comment? Par Instagram?
Je suis très mauvais en social media.
Ouais.
J'ai pas le temps. Voilà. Et quand je me mets sur. J'ai fait une fois social media. J'ai mis la raquette de John Millman quand il a battu Federer sur le social media et j'ai eu 100 appels. Et là, j'ai pas le temps et j'ai décidé de ne pas trop mettre sur multimédia.
D'accord. Ouais. Donc on t'envoie un mail?
Ouais, un mail ou par téléphone. Je suis quelqu'un d'une ancienne génération. J'adore entendre et contacter les gens par mon voix.
Très bien. Ouais. Quelles ont été les demandes les plus farfelues, les plus folles qu'on t'ait demandé sur des raquettes?
Bon, le plus folle, c'est un Hollandais qui joue 1100 ATP qui a demandé entre grip 11 et 9.
Et parce qu'il a des mains.
Oui, il a des mains très longues, très spéciales. J'ai un joueur, par exemple, Radu Albot, il est très petit, je dois rallonger les raquettes incroyables. Oui, par exemple, Xavier Malis, à l'époque, il joue avec un bouchon grip 5 comme Gasquet. Tu vois, un type comme Gasquet, c'est quand même spécial, ouais, c'est sûr.
Ah ouais.
Ouais, tu vois plus des trucs fous spéciaux avec les garçons qu'avec les filles. Ouais.
Et t'es numéro un mondial sur la customisation?
Je vais pas te dire. Moi, j'adore respecter tous mes collègues.
Vous êtes combien?
Bon, on va dire vraiment remouler les manches et reponcer les manches, tout. Bon, on va dire entre 5 et 8 mondiales, vraiment, qui font niveau, très haut niveau. Le seul, peut-être, avantage, j'ai joué, on va dire, un petit niveau moi-même. Ouais. Et j'ai donné des cours de tennis aussi, 20 ans, et tu apprends quand même beaucoup.
Et tu as, tu me disais, 50 joueurs et joueuses dans les 300 premiers mondiaux.
Quelque chose comme ça, ouais. Je ne sais pas, ouais, mais quand même, ouais. Ouais.
Une
50-60, ouais.
Et tu as créé une machine spéciale pour le manche, pour le shaper, tout ça, c'est ça?
Je crois qu'il y a des autres qui remoulent, hein, et tout le monde a sa manière, mais j'ai quand même, on va dire, je n'ai pas breveté mondialement, mais j'ai un accord avec cette usine qui me produit les moules. On met la raquette dans une certaine manière que ça ne peut pas décentrer. Et ça, c'était quand même dur à trouver. Pas facile.
Et chez toi, tu as fait une machine aussi?
C'est pas une machine, c'est une certain moule parce que tu as un moule. D'accord. Par raquette par joueur. D'accord. Mais c'est lui qui produit les moules. C'est un spécialiste qui m'a aidé beaucoup. Ça m'a coûté, mais ok, c'est comme ça.
Tu me disais que cette année, tu avais commandé l'équivalent de 8000 euros de plomb.
Oui. Ouais, le plomb a augmenté beaucoup. Je paye 53 euros par rouleau et ça va vite. Hein.
Et ça te suffit pour l'année ou...
Non, mais ça suffit pour, on va dire... j'ai commandé beaucoup en une fois parce que pour diminuer mon prix.
Ah, oui.
Et ça reste quand même... Tu peux garder 3 ans. Du plomb, tu peux garder 3 ans. Mais quand même, on va dire, je dépense quand même 5000 euros de plomb par an.
Parce qu'au-delà de 3 ans, qu'est-ce qui se passe sur le plomb?
Le col va se résoudre. Ça colle moins bien. Ça doit coller. Ouais.
C'est quoi les 3-4 spécificités qu'il faut absolument savoir en fonction des styles de jeu si on veut customiser sa raquette? C'est quoi les basiques?
Être un maniaque, tu dois noter tout parce que moi, chaque joueur, j'ai des fiches avec 60 caractéristiques parce que tu peux oublier beaucoup, tu vois, et tu dois noter tout. Peut-être, je ne sais pas, si tu vas sur le terrain avec un joueur, être capable de jouer toi-même un bon niveau.
Ouais.
Ce n'est pas parce qu'un coach n'a jamais bien joué que ce n'est pas un bon coach. Je ne dis pas ça, mais quand même, ça m'a facilité les choses, on va dire comme ça.
Ouais.
Que voilà. Et ouais, tu dois être aussi, on va dire, penser, tu dois résoudre des trucs parfois. Tu dois être, comment est-ce qu'on dit?
Force de proposition.
Ouais, parfois c'est des solutions
Créatif.
amateuristes. Ouais, créativité. Ouais,
Ouais.
c'est vrai. Ouais.
Et tu trouves que d'année en année, tu deviens meilleur à chaque fois, tu apprends encore des trucs?
Oui, parfois j'apprends des trucs. Ouais. Comme aujourd'hui, avec la. Comment est-ce qu'on s'appelle ce doigt?
La gâchette.
Ouais, la gâchette, j'ai eu une fille, ouais. Et ouais, elle m'a donné une petite idée pour apprendre un grip neutral pour les petits jeunes.
Ah ouais, pas
Ouais,
mal.
c'est quelque chose que j'ai vu. Ouais.
Parce que tu me disais que chez toi, finalement, quand tu fais des journées de travail, c'est similaire, ça peut être comparable à l'usine où
Oui.
t'enchaînes. Où est-ce que tu arrives encore à prendre du plaisir dans une activité que tu fais depuis
Bah,
15 ans?
c'est une bonne question parce que tout le monde dit, ouais, Dieter, on adore ton job. J'ai des magasins qui me contactent. Ouais, est-ce que tu peux m'apprendre? J'ai dit non parce que c'est que comme un boulanger, j'ai mon recette. Je donne pas des cours customisation, ça c'est sûr. Mais ouais, quand tu commences ton jour dans ton atelier et tu dois faire 18 raquettes par exemple, ce jour-là, tu es fatigué. C'est comme tu travailles sur une chaîne des voitures, c'est tout le temps la même chose. Mais ma plaisir, c'est d'aller sur le terrain et Coupe Davis et Billie Jean King Cup, tu as quand même une semaine complètement spéciale et tu vois quand même beaucoup de joueurs que tu
Ouais.
travailles pour et ouais.
Alors, quelques questions des gens de Tennis Légende qui sont posées sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Quels sont les endroits pour le plomb en fonction de l'équilibre?
Ça, c'est une... Bon, ça, c'est une bonne question, mais c'est une question dure à répondre parce que ça dépend vraiment style par style.
Ouais.
Mais on va dire
Ça dépend du style
en
de jeu, c'est ça?
style de jeu, mais en simplicité, quelqu'un qui a des mouvements très courts, qui frappe pas, il a besoin de la masse. Et quelqu'un qui a des gros mouvements très grands, il a besoin de la maniabilité. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est quand même la base. Ouais.
D'accord. Jusqu'à combien de grammes est-ce que tu recommandes d'alourdir une raquette?
Ça dépend, hein, parce que j'ai des raquettes qui rentrent à 280 grammes, qui sortent à 330, 50 grammes. Ça dépend comment je reçois la raquette du fournisseur de la marque.
D'accord.
Ouais.
Je vais te dire quelques noms et si tu peux nous dire à combien sont pesées, enfin à combien pèsent leurs raquettes.
Je sais pas tout par cœur. Ouais,
Danil à
ça.
peu près, tu sais ou pas?
Non, parce que moi je fais pas d'anil, mais je crois que c'est environ. Attends, je regarde. Je vais regarder. On va dire. Ouais. Ouais. D'anil, environ, je crois, 327 grammes. Mais ça fait quand même des années que ça peut changer. Hein. Parfois, ça
Ouais.
peut évoluer.
Joko.
Joko, je crois, mais je ne suis pas sûr. Je crois que c'est 300. Je peux te dire ce soir parce que j'ai une raquette de lui. Je crois que c'est 300. Je vais te dire.
Ah, tu fais la raquette de Joko?
Non, mais j'ai une raquette que j'ai reçue par un autre joueur pour juste. Ouais. J'adore connaître les chiffres de tous les joueurs. Et ouais.
Rafa.
Rafa, je ne peux pas te dire. Ça, je dois rechercher aussi ce soir. Ouais.
Roger.
Roger, moi j'ai mesuré encore une fois à 342.
Ouais. Une enclume.
Mais oui, l'ancienne génération joue beaucoup plus lourd que les nouvelles générations. Ça, c'est.
Aujourd'hui, les nouvelles générations jouent plus autour de combien?
Bah, on va dire, ça a diminué. Avant, j'ai fait beaucoup de raquettes, on va dire, entre 325 et 340.
Ouais.
Et maintenant, on est plutôt entre 315 et 325. Et parfois plus légère.
Sachant que c'est des athlètes de haut niveau et le joueur de club qui est pas aussi fort athlétiquement, tu lui
Ouais.
recommandes d'avoir quoi comme
Bah,
poids?
c'est sûr, un joueur pro peut avoir, on va dire, une raquette plus lourde qu'un joueur qui est amateur.
Oui, bien sûr.
Mais un joueur pro, on va dire, maintenant je vois beaucoup de joueurs pro, les raquettes sont tellement puissantes qu'ils sont, on va dire, overpower. Ils ont trop de puissance. Ils arrivent à frapper avec un tel poids qu'ils n'ont plus de contrôle à cause de la masse. Ils ne peuvent plus fermer la raquette à cause de la masse. Alors, ouais, c'est un sujet pas facile à parler, hein. Ouais.
Et alors, il y a une spécificité, c'est soit tu mets du plomb à la tête ou sur les côtés, soit tu
Ouais.
mets pour le manche, c'est du silicone.
Ouais.
C'est ça?
Ouais, parce que quand tu colles le plomb en dessous du manche, ça change la forme du manche.
Ouais.
Et certaines raquettes, tu dois coller plus que l'autre pour qu'ils soient identiques.
Et comment tu fais pour mettre du silicone au gramme près?
Ah ouais, ça c'est quelque
C'est un
chose.
métier, ça.
Non, ça va, c'est petit par petit. Hein. Et quand tu injectes trop, tu peux toujours enlever le bouchon. Ça arrive, hein, mais okay, ça, tu dois être prudent.
D'accord.
Ouais.
Quelle est la marque de raquette ou les marques de raquettes où il y a le moins de différence de grammes entre deux cadres?
Bon, on va dire, chaque marque a des, on va dire, des problèmes de production. Voilà, ça c'est sûr. Je veux pas être, allez, j'ai pas envie d'avancer trop de marques parce que je trouve, moi je parle pas des marques, je parle des usines. Tu vois, tout le monde, je crois, ils vont savoir que quand tu vois dans une usine, par exemple en Chine, ils vont produire pour les trois grandes marques. Ce n'est pas que Wilson qui est dans cette usine.
D'accord.
Tu vois, Babolat, par exemple, Wilson, Technifilm, je vois les raquettes dans les mêmes usines.
Ouais.
Ils sont développés par la marque, mais c'est les usines qui le font. Alors moi, j'ai dit, ce n'est pas plutôt les marques, non, c'est parfois chaque usine a ses problèmes et ses avantages.
D'accord, ouais. Ok. L'avantage de la butée de Gasquet, juste on revient dessus, il y a une question là-dessus. C'est quoi le fait d'avoir ça? Ça sert à quoi?
J'adore cette question. Aujourd'hui, le bouchon plus grand, c'est, on va dire, relâchement dans la fin de geste.
D'accord.
Ouais. Tu dois moins gripper ta raquette tu peux, et la raquette ne va pas partir. Alors, tu sais, quand tu relaxes, ça, parfois la balle va plus vite. Tu peux fermer un petit peu plus vite. Ouais, j'ai quand même beaucoup de joueurs pro qui me demandent. Pas comme Gasquet, c'est vraiment beaucoup, mais quand même beaucoup. Ouais.
C'est quoi l'intérêt d'avoir un gros manche ou au contraire d'avoir un petit manche?
Bah, ça se joue plus en plus petit. Verdasco, grip 2, Nadal, grip 2, c'est des mecs qui sont grands. Et
c'est quoi l'intérêt?
Une manche petite et plus maniable, ça peut changer la direction un petit peu plus vite.
Plus de toucher aussi?
Ouais, plus. C'est personnel, mais plus de toucher. J'ai pas beaucoup de joueurs qui jouent trop grand. Aujourd'hui, on a eu une fille qui joue trop grand. Et on va jouer plus petit.
Est-ce que tous les pros rajoutent du plomb dans leur raquette?
Oui et non. J'ai quelques joueurs, ouais, quand même. Hein. J'ai par exemple David Goffin qui joue vraiment presque une raquette de base. Vraiment rien. C'est là où Wilson, ils ont un pro stock. Ils regardent les raquettes les plus proches et ils donnent à lui.
C'est parce qu'il n'y croit pas, ce service?
Bah non, mais il joue beaucoup avec une raquette ou deux raquettes tout le match et il est moins sensible. Il dit, ouais, ça va. Et tu as des joueurs qui sont hyper ponctueux comme Constant Lestienne.
D'accord. Juste un rappel, si tu ne l'as pas encore fait, récupère gratuitement le guide de la raquette parfaite. En bonus, Dieter nous montre sa méthode contre-intuitive pour poser un surgrip au millimètre. C'est dans le premier lien en description de l'épisode. Et dans le second lien, tu as accès à une masterclass d'une heure qui t'aide à choisir la raquette la plus adaptée à ton âge, ton gabarit et ton style de jeu. Sache que tu peux poser toutes tes questions à Dieter en marge de cette masterclass. Et sur ces belles paroles, on y retourne.
Ouais.
Quel est l'impact du poids de la raquette sur le jeu, sur la puissance, sur le contrôle, sur la lourdeur? Tu peux dire, je sais pas, en pourcentage peut-être, l'impact du poids de la raquette sur le jeu, la puissance, le contrôle, la lourdeur.
Oh, mais ça, c'est...
Hyper dur à dire.
Ouais, ça, c'est dur à dire. Parce que, ouais, par exemple, un joueur qui... Par exemple, le poids, un joueur qui frappe pas, qui pousse et qui n'a pas de masse, l'impact devient complètement différent. Ouais, un joueur qui a une accélération vite, une bras très vite, il a moins de problèmes avec l'impact. Tu vois, ça dépend. Ça, c'est dur à dire sur une minute.
Ouais. Quel est l'impact de la rigidité sur la puissance?
Bah, c'est sûr, les raquettes sont de plus en plus rigides. Et quand une raquette est rigide, ça ne va pas plier. Hein, une raquette, ça revient après la balle est partie. Alors une raquette qui est rigide, les cordages commencent à travailler et ça donne plus de puissance. Ouais. Alors maintenant, les raquettes sont assez rigides. Ouais. Environ 68 et 71 rigidité.
D'accord.
Plus dur qu'avant. Ouais.
Et tu gères le cordage toi aussi ou pas?
Bah, on gère, on donne des conseils pour des cordages,
ouais. Ouais,
c'est sûr.
Mais tu es moins passionné par le cordage que par la custo elle-même de la raquette?
Bah, les cordages, c'est quelque chose de personnel. Parce que quand tu as des groupes de cordages, et presque tout le monde joue avec du polyester. Et quand tu vas comparer deux cordages, par exemple avec Hawkeye, c'est dur à voir la différence. C'est tellement proche un cordage de l'autre que c'est plutôt la tête et la feeling du joueur.
On
peut aider sur les kilos, le plan de cordage, on donne des conseils, mais dès que la raquette est customisée, le poids est fait, c'est quand même un choix des joueurs plutôt.
Ouais. Je viens de faire une interview comme avec toi, avec Karim qui bosse pour Artengo,
oui.
Qui nous recommandait et qui recommandait aux joueurs de club de baisser en tension plus
oui.
Ça va. Est-ce que tu confirmes ou toi tu as une autre vision des choses?
Bah, scientifiquement, quand tu joues avec une tension très haute, tu peux mettre le balle plus... sur une place plus précise.
Ouais.
Mais c'est vrai que l'impact devient dur. Et avec les joueurs amateurs, on va dire des vétérans 45 ans qui n'ont pas un swing très vite, c'est mieux de baisser. C'est sûr, parce que la balle va partir un petit peu plus facile. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve, par exemple, avec les femmes, rotation de balle. Beaucoup de femmes, ils n'ont pas assez de rotation de balle. Si tu descends un petit peu, la balle, tu peux aller, la rotation va plus vite. Je trouve, ouais, on peut quand même, Karim a raison, on peut aider beaucoup sur le cordage. Ouais.
Karim, on
Karim.
t'embrasse. Quel est l'impact de l'équilibre sur la raquette?
Bah, si c'est trop bas, tu as un choc très grand. Si c'est trop haut, c'est pas maniable. Et c'est de trouver une compromis entre le coup droit et le revers. Ouais, ça c'est. Ouais.
Voilà, merci les gars.
Ouais.
Tac, tac, tac. Il y a un gars qui nous dit, est-ce que 280 grammes, ça suffit à 15? Mais tu connais pas trop les classements français, toi.
15, attends, j'ai les classements ici.
Ça, pareil, c'est des demandes qui sont assez dures à répondre, mais on
Non,
peut
c'est pas grave.
essayer.
15. Moins
Non,
15,
non,
ok.
non, 15, pas moins 15.
15.
D, moins 4,6.
Ah ouais.
280 grammes, il demande,
Bah,
le gars.
ça dépend comment tu joues. Si tu as des
T'as
gestes
un top mondial qui te répond, mon gars.
Ouais.
Là, concentre-toi.
Ah bah, ça dépend comment tu joues. Si tu as des frappes très courtes et tu pousses la balle, peut-être je dis tu peux augmenter, mais quand tu as des gestes très grands, peut-être ça suffit. Mais tu as toujours des exceptions. Regarde Maxime Cressy. Il est quand même top 50 mondial. C'est le joueur qui joue le plus légère. Il joue 294 grammes et il sert à 220 à l'heure aussi.
Et tu lui as mis un petit mot à Maxime Crécy en signature sur le
Ouais.
bouchon, tu peux nous dire ou pas?
Je peux vous dire, ouais, j'ai dit à Maxime, sorry dude, three shots max. Parce que lui, il fait pas des rallyes. Il veut que les rallyes soient le plus court possible, que l'autre a pas du rythme. Et il fait ça très bien.
Et c'est un bon gars?
Ouais, c'est un bon gars. Il est très intéressé au niveau de costaud.
Ok.
Et on va dire, c'est un des cas pour moi où j'ai appris que c'est pas que la masse qui compte. Parce que beaucoup de joueurs demandent plus lourd, plus lourd, plus lourd. Mais ça, c'est quand même une preuve, Maxime Classique. Jouer très légère, ça peut marcher aussi. Ouais.
Tac, tac, tac. Ah, l'impact de la taille du manche sur les blessures et tennis elbow. Est-ce que ça joue?
Bah ouais. Ah ouais, la taille du manche, c'est sûr, si c'est trop petit, c'est pas bon. Trop grand, c'est sûr que c'est plus mauvais que trop petit. Et voilà, mais avec les joueurs pros, et ça c'est la différence avec les amateurs, on met plein de silicone dans les manches qui prend les vibrations. Avec le polyester, un cordage dur, tu as beaucoup de vibrations, et on met beaucoup de silicone dans les manches, mais
Ah,
ouais.
le silicone absorbe les vibrations.
Ouais.
D'accord. Interesting.
Ah, ça
Est-ce
c'est
qu'il y a une question ou deux que j'ai pas posée et que c'est hyper important de comprendre sur la customisation?
Oh, ça c'est. Je dois penser. Peut-être, ouais. Qu'est-ce que le custo fait sur le poids, sur le truc mental? Ouais,
Ah
c'est sûr.
yes.
Ouais.
Alors je te la pose la question. Mentalement, qu'est-ce que ça ajoute ou qu'est-ce que ça enlève la customisation?
Bah, moi je trouve mentalement, dès que tu commences sur une carrière professionnelle, ça peut t'aider. Parce que si tu casses une cordage dans le tie-break et tu es sûr que tes raquettes ne sont pas identiques, tu as un gros problème. Ouais. Parce que scientifiquement, tu vas rater une balle. Quand la raquette est 5-6 grammes plus lourde, ça peut te faire rater une balle. Alors, je trouve au niveau mental, c'est quand même important que quand tu veux devenir pro ou tu es pro, que les raquettes sont identiques sur tous les moments.
Toi, quand tu vois un joueur, si un joueur de club vient te voir et tu regardes son jeu, est-ce que tu es capable de lui dire, il te faut telle raquette, à tel poids, avec tel custe? Enfin, est-ce que rapidement, en fonction du style de jeu, tu es
Ouais.
capable d'orienter la personne sur
Bah,
le bon produit?
oui, parce que je garde tous mes chiffres. Je garde toutes les spécifications de tous les joueurs pro, amateurs, tout. Ouais. On va dire à 95%, je suis dans le bon chemin.
Ok.
Et là, c'est le mental. Parfois, le joueur dit, ouais, c'est bon, mais j'ai un coup qui marche pas. Et parfois, tu dis, OK, on ajoute là un petit peu pour toi et ça peut aider.
Ouais.
Parfois, j'ai besoin de la chance que quand tu changes quelque chose, il gagne les 3 premiers matchs.
Ouais.
Ouais, mais ouais. Mais c'est vrai, quand tu joues avec une nouvelle raquette, nouvelle couleur, tu joues toujours bien.
Ah bon?
C'est vrai parce que tu penses pas trop à ton nervosité, tu as une nouvelle raquette.
Ouais.
Ouais, on a beaucoup de joueurs qui changent de raquette, ouais, qui adorent la raquette les premières 3 semaines. Et après, tu retombes sur tes anciens trucs. Parfois, c'est pas facile, ouais, de customiser.
Et alors, c'est quoi le secret pour, après les 3 semaines, pour gérer le mental qui revient?
Bon, moi, j'envoie parfois des messages à des joueurs. Quand tu as battu, par exemple, le numéro 1 mondial et tu as fait ton meilleur match, je dis quand même aux joueurs, garde cette raquette. C'est la preuve que tu as quand même bien joué avec cette raquette. Commence pas à rechipoter.
Ouais.
Mais tu as des joueurs qui chipotent tout le temps. Ouais, mais
Après, il y a plein de
parfois,
questions. Il y a l'argent, il
oui.
y a les contrats.
Oui, il y a un changement des raquettes, des contrats. Et là, je crois que tu dois commencer à chipoter, à adapter. Mais quand tu as un contrat de 5 ans avec une marque et tu as battu numéro, par exemple, numéro 1 mondial en jouant bien et que tu as fait ton meilleur match, arrête de chipoter. Parfois, c'est le temps d'arrêter de jouer.
Je crois qu'il faut que je te laisse parce que tu as 96 raquettes à faire.
Ouais.
Et déjà, merci d'avoir pris le temps.
Merci beaucoup.
Merci, Victor.
Allez.
Je vais pas t'enlever tes informations.
J'espère que j'ai notre trop sur mes
T'as dit,
mains.
c'est les secrets des
Ouais.
cristallisateurs. Faut tout noter.
Allez.
Allez, à la prochaine.
Ciao.
Ciao. Et c'est pas fini, les légendes. Je vous mets la conclusion de notre masterclass avec Victor qui nous a partagé quelques infos complémentaires qui peuvent vous régaler. Allez découvrir les 14 parties de secours d'une heure dans le second lien en description de l'épisode. Allez, on file et on termine. Les mecs, pour terminer, les quelques mecs les plus connus que tu customises, c'est qui?
Bon, moi, je travaille pour Gaël Monfils. C'est un des joueurs qui joue très très lourd. Ouais, c'est un on va dire un joueur qui il est dans mes records au niveau du poids.
D'accord.
Mais c'est vrai, il joue Gaël. Il a une vitesse bras quand même énorme, mais il a aussi la tendance de jouer très loin derrière sa ligne pour commencer les rallyes. Hein, et après, il monte. Ça veut dire il a un petit peu plus de temps et il peut jouer lourd. Moi, j'ai les noms. Attends, je prends une petite liste. Moi, j'ai travaillé, pour quelques exemples, toujours travaillé longtemps. Tout le monde connaît. Ah, je vais mettre quelques Français. Hein. Chardy qui vient, Lucas Pouille qui vient. Maintenant, les Belges, j'ai toujours travaillé pour. Tu connais, tout le monde connaît Malice, Vliegen, Locus, Darcy. Je travaille pour maintenant les jeunes qui viennent. Oh. Les femmes, je travaille par exemple pour Swiatek, Ongjabeur, Kasatkina, Clara Tauson, Elise Mertens, ouais, beaucoup, beaucoup. Mais on va dire la vieille génération de Federer et tout, moi j'étais trop jeune. Je ne travaille pas encore pour eux. Mais
Et
j'ai. Ouais. Vas-y, vas-y.
les joueurs qui t'ont le plus impressionné sur le bruit à la frappe?
Oh, c'est quand même, je dois dire, quand. Sur une balle morte, j'ai deux joueurs qui m'ont impressionné vraiment. C'est mon fils Gaël. Quand tu vois quelle vitesse il peut crier sur une balle très lente, parce que parfois il est 3 mètres derrière sa ligne et il met une mitte, j'ai dit comment tu peux faire ça? Ouais. Et le deuxième joueur qui m'a impressionné, c'est un joueur complètement différent, c'est Maxime Cressy. Il joue avec une raquette tellement légère et ouais, il monte au filet tout le temps, il ne fait pas des rallyes. On va dire, il casse complètement ton jeu. Tu retrouves pas ton rythme parce que je sais beaucoup de joueurs, ils ont peur de lui. Parce que ouais, il veut juste monter au filet et tuer le point le plus vite possible. C'est deux contradictoires. Et on va dire, c'est mon client avec la raquette le plus léger et le plus lourd.
Et le joueur où tu as vu l'étincelle la plus présente quand tu lui as fait la customisation et qui t'a
Ouais.
regardé, il t'a dit, putain, Ditor, je t'aime. Est-ce qu'il y en a un qui est sorti du lot?
Qui est sorti du lot. C'est dur à dire, parce que c'est dur à dire. Parfois, tu as des joueurs, tu dois regarder son histoire, ils ne vont plus jamais changer.
Ouais.
Hein? Un Radio Albot, il est très petit, il joue très long, très lourd, il ne va plus jamais changer. Même si je conseille, essaye de jouer plus léger, ok, ça va être dur. Mais alors, je vais dire un exemple où on a gagné vraiment beaucoup. Hein? Pa-bam, pa-bam, pa-bam. Là, je dois penser un peu. Ou ça m'a, même moi, ça m'a impressionné de changer ses specs. Bah, par exemple, j'ai un cas que ça date 2 semaines. Non, ça date 3 semaines. J'ai un cas qui tout le monde le connaît, un junior qui est numéro, il va être numéro 1 mondial junior, Gilles Arnaud Bailly.
Ouais.
Et il a joué son premier match ATP contre Goffin. Il a presque battu David. Et là, je crois 2 semaines avant. On a changé. Moi, je trouvais qu'il jouait trop lourd en tête. J'avais analysé en Coupe Davis parce qu'il pouvait jouer, allez, entraîner avec l'équipe belge comme talentueux en Coupe Davis. Et on a fait un jour de test avec ses entraîneurs. Et là, quand même, on a retrouvé un coup droit qui a amélioré juste. Allez, je ne dis pas c'est tout le temps les spécifications de la raquette, mais on a gardé la même poids, la même balance, mais on a diminué son swing weight. Et je l'avais dit, hein, tu vas jouer contre des joueurs qui sont mieux que toi. Tu vas avoir besoin d'une raquette plus maniable parce que ça va être dur avec des spécifications comme ça. Et là, on a trouvé une preuve. Hein. Il a tellement bien joué dans son match. Il était prêt. il était plus trop tard, son trajectoire, coup droit était beaucoup plus haut, plus de rotation. Et là, ça m'a surpris que quelques swing weights plus bas, ça a donné tellement de coups. Ouais.
C'était où le match contre David?
C'était à 250 ATP, Anvers.
Ah bah
C'était
c'était
son
là,
premier match.
c'était... Oui, ok.
C'était son premier match ATP. Ouais, il avait un wild card. Et là, j'ai dit quand même, aïe, aïe, aïe. Hein, avec, et, ouais, parce que je l'avais vu une semaine en Coupe Davis et je trouve que la tête de la raquette passait pas assez. Ouais, et ouais, là, on a changé. Mais c'est dur mental parce que imagine là, il fait un match désastreux. Qu'est-ce que moi je vais dire?
Ouais. Il s'était beaucoup entraîné avec avant ou pas?
Non, pas trop, honnêtement. Je crois 2 semaines, c'est tout. C'est pas beaucoup, hein.
Et Swiatek, sa raquette est beaucoup customisée?
Bah, oui et non, ouais. Tout le monde sait que les raquettes, toutes les marques, ils font des marges de l'usine, ils font des petits erreurs. Hein, c'est toutes les marques. Wilson, Babolat, Technifib, Yonex. Une raquette à 285 grammes, c'est toujours moins 5 plus 5.
D'accord.
Alors, on a pris une raquette un petit peu plus légère que j'ai du match pour travailler. Alors, la base, c'est un 285. Et là, j'ai quand même un petit peu de marche pour faire les specs. Ça veut dire, oui, la raquette est customisée, on va dire, 14 grammes, environ 14 grammes pour son jeu. Et on a mis, parce qu'elle ne voudrait pas changer la taille du grip et la forme du grip Prince, parce qu'elle jouait Prince, on a fait un grip Prince, forme Prince sur un Technifib.
D'accord. Et tu me disais que tu faisais 15% de raquettes pour des amateurs. Si des abonnés de Tennis Légende veulent te contacter, je peux les mettre en relation avec toi?
Oui, mais fais attention parce que maintenant, à partir de maintenant jusqu'à mi-janvier, c'est dur parce que je prépare beaucoup de raquettes pour Australian Open. Tous les marques, ils viennent avec des nouveaux couleurs, hein, des nouveaux modèles. Les joueurs, ils veulent tester. Alors, après, quand ils testent, tu dois encore préparer. Alors, pour moi, tu peux m'appeler après mi-janvier.
Ça marche, c'est noté. Très bien.
Pas de souci.
Est-ce qu'il y
Ouais.
a un mot pour terminer, Dieter?
Bah, on a passé un jour et voilà, c'est normal comme customisateur pour on va dire les meilleurs joueurs mondiaux, j'ai des secrets que je peux pas partager. Hein,
Normal,
tu
bien
vois,
sûr.
le remoulage, parce qu'on a développé des moules qui sont assez chers. Ouais, changer la taille du grip, comment je rallonge les raquettes, si j'ai trouvé des trucs moi-même pour que ça casse pas. Alors, j'ai parfois envie de raconter, mais je dois quand même me protéger un petit peu. Mais
Ouais.
des gens comme toi, j'adore parce qu'on a vécu une. Hein, tu as vécu une journée ensemble avec une joueuse où toi, même toi, tu as vu la différence entre deux raquettes customisées ou changer les specs. Ouais.
Ah, c'était génial, c'était incroyable.
Le plus dur que moi dans mon custo, c'est quand tu changes. Je dois protéger ma réputation parce que j'ai joué un petit peu moi-même aussi. Je dois protéger ma réputation. On change les specs et le jour où il joue les premiers 3-4 matchs, c'est important pour moi parce que tu as besoin de la chance aussi. Imagine, tu joues 3 matchs contre les meilleurs joueurs. Hein, tu peux aussi perdre un match parce que l'autre, il a joué beaucoup mieux. Ouais,
Tu stresses sur ces 3-4 premiers matchs?
aussi, hein, du stress. Moi, j'ai parfois du stress parce que quand tu. Par exemple, Bailly, moi, j'étais dans les tribunes. J'étais un petit peu nerveux parce que j'avais quand même changé quelque chose pour un joueur pro. J'étais convaincu, mais imagine, il perd les 3 matchs. Il perd les 3 matchs parce qu'il joue tellement mal et il ne retrouve pas son rythme. Tu dois recommencer à travailler. Tu vois?
Et sans donner forcément des noms, ça t'est arrivé quelquefois de te tromper?
Pas trompé, non, mais oh, trompé, est-ce que je me trompe? Au niveau scientifique, j'ai quand même des gens qui me donnent un coup de main, hein, des ingénieurs et tout aussi. Non, mais au niveau, ouais, peut-être trompé au niveau mental. Ouais, que peut-être j'ai pas lu la tête du joueur. Ouais, ça arrive. Un exemple, c'est dangereux à dire, hein, pour tout le monde, mais parfois j'ai un joueur, on va dire que j'aurais aimé qu'il joue plus légère, mais il a quand même remis son poids, son ancien poids, ou un petit peu vers son ancien poids parce qu'il l'a pas trouvé. Oui, ça arrive. Ouais. Mais je trouve en jouant toute honnêteté. Moi, je donne mes conseils et si ça va pas, je dis au joueur, OK, c'est toi l'affaire qu'il doit choisir. Je prépare les raquettes comment il veut. Hein.
Et sur un joueur amateur qui vient, comment est-ce que tu fais pour bien lire son mental?
Expérience. C'est comme un
Expérience
docteur.
et... Ouais.
Ouais, c'est comme un docteur qui a vu 300 fois une telle maladie. Ouais, moi, je garde tous mes statistiques. Un joueur, ça, je mets tout dans mon ordinateur et tu apprends à connaître tes chiffres.
Et la pire maladie au tennis, c'est quoi?
C'est moi. La pire maladie, c'est quand tu perds, que c'est que ta raquette. Ouais, ouais, et moi, j'ai eu le même problème. Ouais. Au début, tu dis, parce que je vais dire quelque chose peut-être qui n'est pas très correct faire beaucoup de joueurs, mais parfois, les joueurs qui n'arrivent pas à leur niveau top, ouais, qui commencent à jouer mal, ils commencent à travailler parfois leur raquette avec moi. Et ouais, parfois, c'est possible, ils ne sont pas assez talentueux ou ils ne travaillent pas assez. Ou c'est une excuse. C'est vrai. Ouais. Pas tout le monde est construit pour devenir top 100.
Bien sûr, évidemment.
Voilà. Et parfois, tu as des joueurs, ça m'arrive, ils disent, ouais, c'est la raquette, c'est le cordage, c'est ça, c'est le coach physique, ouais, mais parfois, ouais, ça arrive. Ouais.
Et
C'est pas tout le temps la raquette.
pour terminer, je te disais, je joue avec une raquette là qui est trop lourde et qui est plus forcément adaptée parce que ça fait 6 ans que je l'ai, même plus, je crois. Si demain prends le bon modèle avec toi, que tu me diagnostiques bien comme un bon
Ouais.
docteur qui a de l'expérience, combien en pourcentage je peux aller chercher de progression?
Ça dépend, ça on ne peut pas dire, mais pour les joueurs pros, ça peut jouer beaucoup. Ouais, parce que quand une raquette est adaptée, oui ou non, ça peut varier entre 8 et tu peux gagner par exemple 8 ou 9 km à l'heure, mais c'est un ace ou c'est pas un ace.
Ouais.
Tu vois? Ça peut, mais ça dépend comment il gère les moments importants.
Mais on sait qu'au niveau pro, c'est des Formule 1, c'est des micro-détails,
C'est des micros,
c'est
voilà.
des petits pourcentages. Donc
Ouais.
forcément, sur les joueurs de club, c'est des plus gros changements. Moi, j'imagine qu'avec le bon matos, je peux aller chercher au moins 20% d'efficacité en plus.
20, tu peux. Ouais, ça peut arriver, hein, ça dépend. Quand tu joues vraiment avec une raquette qui est complètement, complètement pas pour toi, tu peux gagner, on va dire, 20%. Ouais. Mais j'ai aussi des cas qui gagnent 3-4%, mais sur le niveau pro, c'est important.
C'est énorme, bien sûr, c'est
C'est
énorme.
énorme.
C'est
Ouais.
comme le gars qui fait appel à la stat et qui gagne 1% grâce à la stat, c'est déjà ça, quoi.
Ah voilà, c'est déjà beaucoup. Ouais. Mais moi, je trouve mon boulot, c'est aussi d'aider le joueur au niveau mental. Parce que tu sais, mon phrase, et comme ça on va finir,
Ouais.
mon phrase commerciale, hein, dans mes bouchons, je vais t'envoyer une photo, c'est Where racket meets mind. Where the racket meets the mind.
Ouais.
C'est où la raquette, ça fait le même, on va dire, je ne sais pas le mot en français, meets, joint la mentale.
Ouais, rejoins. Ouais.
Rejoins le mental, c'est important pour moi. Ouais.
Nice, merci Dieter.
Et je t'envoie une photo tout à l'heure. Ça va?
Trop bien. Eh
Ça, peut-être,
ben,
tu peux commencer ton truc. J'adore ça, la phrase.
when the racket meets the mind, quand la raquette rejoint le
Ouais.
mental.
Ça, c'est mon phrase. Et le logo, tu vas avoir une logo en 3D, c'est DC. Tu vois? Tu vas avoir un D et un C, c'est Dietrichal, DC. Parce qu'ils vont me. Tu vas demander. Et le logo, c'est les grips, tu vois? Tu vas voir le grip, changement du grip dans le logo. J'ai bien pensé à ça.
Envoie-moi la photo, ouais.
Ok, tout à l'heure.
Trop
Ça marche.
bien. Merci, Victor.
Ciao.
À
Bye.
bientôt. Ciao,
On
ciao.
s'appelle. Allez, on
Ouais,
s'appelle.
ciao, ciao. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode avec Victor, alias le Benoît Poulvord de la customisation de raquettes. Immense merci à Edge de nous avoir permis de réaliser ce contenu. Mets-nous un like sur YouTube si ça t'a plu. 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et un commentaire en plus. J'adore vous lire, ça me donne une énergie incroyable pour continuer de produire du contenu. Pour rappel, récupère gratuitement le guide de la raquette parfaite et nous t'enverrons les infos pour entrer en contact avec Dieter et customiser tes propres cadres. Si c'est un service qui t'intéresse, c'est le premier lien en description. Et découvre le plan en 14 parties de notre masterclass d'1 heure avec Dieter pour te donner toutes les cartes en main, de choisir la meilleure raquette possible en fonction de ton âge, ton gabarit et ton niveau de jeu. Second lien en description. Pense à partager cet épisode à un pote un peu maniaque sur son matos, ça devrait lui plaire. Sache que tu es un ambassadeur du podcast et le bouche à oreille nous aide considérablement à grandir. Alors par avance, merci de diffuser ce travail. Ça prend 5 secondes et ça fait une diff considérable à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année et à la fin de nos vies. Voilà. Si tu veux nous soutenir d'une autre manière, tu peux le faire sur Tipeee en faisant un don. C'est tellement cool de se sentir soutenu. Pour accéder à la page, tape Tipeee, T-I-P-E-E-E, donc 3-E, puis Tennis Légende Podcast dans Google et yalla. J'ai une annonce importante à vous faire, les légendes. On recherche quelqu'un qui a envie de nous aider à développer du contenu sur le paddle. Quelqu'un de passionné, qui aime les réseaux, qui a du temps, évidemment, et qui y croit. C'est hyper important. Perso, j'aime le paddle d'une force incompréhensible. Mais avec Johan, on n'a tout simplement pas assez de temps à se dégager. Donc, envoyez-moi un mail à max@tennislegende.fr. Si vous êtes chaud, et parlez-en autour de vous. Si vous pensez à la bonne personne, j'ai trop hâte. Vraiment, objectif de 2023. D'ailleurs, je suis aussi joignable sur LinkedIn à Max Zamora ZAMORA et Insta, Tennis Légende Podcast. Et on a besoin d'aide à plusieurs niveaux pour 2023, donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer des candidatures spontanées. Vraiment, je réponds à tout le monde. Et si vous avez des idées de partenariat ou autre, voilà, un petit mot sur LinkedIn, sur Insta, par mail, peu importe, mais venez proposer. C'est toujours hyper cool d'échanger en direct. Je crois qu'on a fait le tour, la fin d'année approche gentiment. C'était 12 mois incroyables et j'ai l'impression que ça n'est que le début. J'ai pas trop envie de m'avancer, mais je crois qu'il y a de beaux projets à venir. Bref, je vous en parlerai quand tout ça sera finalisé. Je vous envoie des bises, les légendes, et je vous laisse avec la blague préférée de Ditor. C'est en anglais et elle est faite à la légende du tennis, considérée comme une des plus grandes sportives de tous les temps, Billie Jean King, qui a gagné les 4 tournois du Grand Chelem et qui a été numéro 1 mondial en simple et en double. C'était lors de la Fed Cup, alias justement la Billie Jean King Cup. Dorénavant, c'est cadeau. Ciao.
We were in the Davis Cup. It was with the net.
Yeah.
And we
first
had
time.
Israel, and we had an hypnosis guy.
Hypnosis?
Yeah. So we had a team show, you know, and we had a new Belgium watch, and I had to come up because I always make fun. So the guy was like this.
So he's on the stage with the
he's
guy.
He's on the stage. 100 people are watching, and he lets the watch drop down in a black bag where you put diamonds.
Yes.
And I didn't see anything. I was like this.
Oh, he hypnosis, yeah.
And I was scared, you know, I started sweating, and Olivier Rochus, you know, the small guy, yeah. Olivier Rochus, he had to come, I was in the stand, I didn't see for half an hour, and I was sweating, I was nervous, and the guy said, the hypnotist guy said, Dieter, I'm going to break your watch. I'm going to hit your watch, I'm going to return the bag, it falls out, and you will see. I said, I hope so, because I'm a little bit scared. Everybody laughed. Yeah, so.
Yeah, the joke's on you. Yeah,
I had the joke's on me. So I heard the hammer, you know, and then he reversed the back. And it broke. And I could see, and I see him with the hammer. He says, so on my watch, it's for later. He says, it's not finished. It's for later. It's okay. And the Federation of Belgium is very good, you know. 2 hours later, the show was still going on. We had a big break. And we had to go down. And they ordered something to eat, you know. And I ordered, you know, a sandwich, croque monsieur, you know, croque monsieur.
No.
Yeah? And you know what was in between?
Your watch.
No, ham and cheese.
Oh, great.
Yes.